Et c'est le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le procès d'un traumatisme pour la police, l'agression de Viry Châtillon. Il y a 3 ans, ces policiers brûlés dans leur voiture. 13 personnes comparaîtront en cour d'assises à partir d'aujourd'hui. Donald Trump commence à réagir après l'assaut des Turcs au Kurdistan syrien. Il annonce des sanctions économiques contre la Turquie. Est-ce un début de revirement ou une simple pression pour la forme? Et l'Europe, dans tout ça, elle est en train de sortir de l'histoire. C'est le postulat de votre invité ce matin, Nicolas.
Oui, il s'agit de Jean-Louis Bourlange, le député MoDem des Hauts-de-Seine. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou réagissez via les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Dans ce journal aussi, cet accident dans une fête foraine hier soir. Un mort et un blessé grave éjecté d'un manège. Une improbable évasion de prisonniers menottés 2 par 2 à Marseille. Gérard Collomb, officiellement investi par la majorité pour les municipales à Lyon. Et puis cette étape inédite du prochain Tour de France, le col de la Lauze, qui n'était même pas une route jusqu'à l'an dernier.
France Inter.
Leur agression avait provoqué des semaines de manifestations policières. 2 agents grièvement brûlés, 2 autres blessés ce 8 octobre 2016 aux portes de la cité de la Grande Borne dans l'Essonne. On a jeté des cocktails Molotov dans leur voiture et cette attaque était préméditée selon l'enquête pour déloger ces policiers en faction qui dérangeaient le trafic de drogue. Pour en répondre, ils seront 13 à comparaître aujourd'hui devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne. Ariane Grissel.
Cette attaque, pour les collègues des victimes, c'est un guet-apens soigneusement préparé. Les assaillants fabriquent, les cocktails Molotov attendent la patrouille. Ce policier, délégué syndical Alliance, exerce dans le même secteur. Il est lui-même sur le terrain quand il apprend ce qui est en train de se passer.
Sur nos ondes radio, que des policiers étaient en train de brûler dans des véhicules sérigraphiés.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là?
On n'y croit pas qu'ils n'avaient pas atteint ce degré de violence. Il y a déjà eu des véhicules de police qui ont brûlé, mais là, avec les policiers dedans, non.
Un autre policier arrivé rapidement sur les lieux dit avoir vu des habitants indignés, d'autres se réjouir. Plus tard, un de leurs collègues entendra un homme dire à celui qu'il pense être l'un des assaillants « Vous avez grave assuré avec l'histoire des keufs brûlés ». À la Grande Borne, certains protègent les auteurs de l'attaque, d'autres ont peur des représailles. Ce sont finalement des vidéos sur les réseaux sociaux qui conduisent aux premières interpellations, aux premières confidences aussi, même si de nombreux accusés nient les faits. Déborah Meyer-Mimran est l'avocate de l'un d'eux à ce procès.
Il aborde avec beaucoup d'anxiété du fait de la médiatisation très importante des faits, de l'accent qui a été mis sur son lieu de vie, la Grande Borne. Il est très touché par la douleur des victimes, bien entendu. On peut être touché sans pour autant être concerné par les faits.
3 ans après l'attaque, le policier le plus gravement touché n'a toujours pas pu reprendre le travail. Il subit encore aujourd'hui des opérations du visage, conséquence de ses blessures.
Et les avocats des accusés dénoncent un dossier d'accusation fragile qui repose sur des témoignages anonymes, des rumeurs et des revirements. Leur procès doit durer jusqu'au 6 décembre. Là, pas de doute sur les intentions des accusés. Elles avaient tenté, au nom du djihad, de faire exploser une voiture à proximité de Notre-Dame de Paris en 2016. Ornella Gilligman et Inès Madani ont été condamnées à des peines de 25 à 30 ans de réclusion par la cour d'assises spéciale hier soir. Leurs 2 co-accusés, des femmes également, ont pris 20 ans. Et combien sont-elles, femmes de djihadistes ou djihadistes elles-mêmes, relâchées dans la nature en Syrie à la faveur de l'attaque turque qui se poursuit contre les Kurdes? C'est le départ annoncé des militaires américains qui a tout déclenché depuis Donald Trump a semblé se désintéresser du sort de la région et de ses alliés vainqueurs de Daesh. Avant de durcir le ton hier soir, mais cela aura-t-il un quelconque effet sur le front? Il ne s'agit pour l'instant, Loïc Loury, que de sanctions économiques annoncées par Washington.
L'offensive militaire turque met en danger des civils et menace la paix, la sécurité et la stabilité régionale. Ces propos sont bien ceux de Donald Trump et cela 8 jours après avoir donné un quasi feu vert au président turc pour déclencher son opération contre les Kurdes. La Maison Blanche n'en est donc plus là. Son locataire promet une hausse des tarifs douaniers sur l'acier turc. Il précise aussi que les soldats qui se retirent actuellement de Syrie resteront dans la région pour surveiller la situation. Donald Trump, selon son vice-président Mike Pence, s'est même allé plus loin lors d'un coup de fil avec son homologue turc. Le président Trump a été très clair. Les États-Unis veulent que la Turquie mette fin à l'invasion, instaure un cessez-le-feu immédiat et commence à négocier avec les forces kurdes en Syrie pour mettre fin à la violence. Mais si le ton monte, les premières sanctions restent timides puisque seuls trois ministres turcs sont visés, certes importants à la défense, à l'énergie, à l'intérieur. La Maison-Blanche, toutefois, pourrait en faire plus face aux pressions du Congrès où démocrates et républicains s'entendent pour dénoncer le retrait américain de la région. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et en France, on redoutait le match des Bleus hier soir face à la Turquie au Stade de France. On en a vu les buts, un partout, ce qui repousse la qualification officielle de la France pour l'Euro 2020 au mois prochain après les matchs retour contre l'Albanie et la Moldavie. On a vu l'ambiance plutôt saine pour un match qui s'annonçait tendu vu le contexte avec des supporters turcs applaudissant la Marseillaise. En revanche, à la télévision, personne n'a vu les saluts militaires des joueurs turcs après leur but. Et en fin de rencontre, ces gestes de soutien à l'offensive turque en Syrie n'ont pas été diffusés. C'est la première fois que ça arrive sur les côtes de la Manche, la découverte des corps de deux jeunes migrants irakiens ramenés par la mer sur une plage du Touquet hier. Deux embarcations rudimentaires retrouvées à proximité. Près de 1500 personnes ont tenté la traversée du nord de la France vers l'Angleterre cette année.
Il est 8h06, Florence, un accident dramatique et spectaculaire à présent.
Deux jeunes femmes éjectées du manège d'une fête foraine à Firminy dans la Loire hier soir. L'une est morte sur le coup, l'autre est grièvement blessée. Elle se trouvait dans des nacelles suspendues type chaise volante, Mathilde Montagnon.
Les deux jeunes femmes étaient montées dans le Sky Flyer, un manège de type chaise volante installé place du Chanoine Chaussée. Vers 21h, elles ont été éjectées de leur siège en pleine rotation et projetées sur le sol. Un choc extrêmement violent. Une femme de 24 ans est décédée sur place. La seconde victime a été transportée dans un état grave au CHU de Saint-Étienne. L'un des bras du manège qui supportait leur siège a cassé dans l'accident. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de ce drame. L'attraction était-elle défectueuse? A-t-elle heurté un autre manège situé juste à côté? Le vent qui soufflait relativement fort hier soir à Firminy a-t-il pu entraîner une déportation des installations? Le procureur de la République s'est rendu sur place hier soir, mais il s'est refusé à tout commentaire. La police technique et scientifique a fait des relevés et les deux manèges ont été placés sous scellé. Ils devront être expertisés.
Mathilde Montagnon de France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Ils peuvent de nouveau vendre leur lait. Immense soulagement pour les producteurs touchés par l'incendie de l'usine Lubrizol. Le ministère de l'Agriculture lève les restrictions en cours depuis pas loin de 3 semaines, mais le lait va continuer à être surveillé et on attend désormais la levée des interdictions concernant les fruits, les légumes, les œufs, le miel et les poissons. Elle aussi était classée Seveso. L'usine Metal Europe a fermé il y a 15 ans à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais après avoir produit des tonnes de plomb, de zinc et d'acide sulfurique et laissé des sols lourdement pollués. Les autorités ont laissé faire, selon les élus de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, Emmanuel Boin, il s'apprête à poursuivre l'État pour préjudice écologique.
700 hectares de sol pollué, 5 communes, 24 000 personnes encadrées par un PIGE, un projet d'intérêt général qui restreint l'usage des sols. La situation sanitaire est catastrophique pour Bruno Adolfi, le président de l'association PIGE, qui se bat depuis des années pour que cette pollution soit reconnue.
On parlait il y a une dizaine d'années du plomb. On est persuadé qu'il y a certainement d'autres métaux lourds pour lesquels on n'a jamais discuté. L'intégralité des terrains et des potagers aujourd'hui sont dans une situation pas possible en matière de culture, de jardinage, et sont un danger quelque peu pour les enfants qui courent dans ces jardins.
Metal Europe a laissé des traces de son passage. Et pour l'agglomération d'Hénin-Carvin, l'État a fauté. Maître David Deharbe, il va défendre le dossier.
Il y a eu des carences dans la mise en place de réglementations sur les rejets en cadmium ou les rejets en plomb, en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on avait des envols de poussière, tout en sachant que les vents dominants exposaient les territoires qui étaient occupés, urbanisés et pour certains cultivés.
Dans un premier temps, la communauté d'agglomération va saisir le préfet du Pas-de-Calais d'une demande de traitement des terres polluées. S'il refuse, le tribunal administratif de Lille sera saisi.
25% de droits de douane supplémentaires pour les vins français aux États-Unis. Il va falloir aider la filière, a demandé le ministre de l'Agriculture à la Commission européenne hier soir, soutenu par ses confrères espagnols et italiens. Les sanctions américaines sont censées entrer en vigueur vendredi. C'est cet après-midi, ce mardi, que les députés doivent se prononcer sur le projet de loi bioéthique. On attend son adoption puisque la plupart des élus de gauche voteront avec les marcheurs ainsi qu'un tiers des républicains qui devraient s'abstenir soutenir ou voter pour. Le texte va maintenant être examiné par le Sénat avant de revenir à l'Assemblée au printemps. Et d'ici là, les opposants à cette PMA pour toutes ont bien l'intention de faire entendre leur voix dans la rue, selon un calendrier très étudié. Maxence Lambrec.
La bagarre va continuer. La Manif pour tous annonce 5 nouvelles mobilisations jusqu'en juin. Mais ces dates font déjà polémique. Elles tombent sur les journées mondiales de la lutte contre le sida, 1er décembre, puis des droits des femmes, 8 mars, et enfin la lutte contre l'homophobie, le 17 mai. Un choix délibérément crasse et indigne, dénonce Urgence Homophobie. Réponse de la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère.
Il est tout à fait cohérent de se mobiliser pour le respect des droits de la femme, c'est-à-dire contre la pratique des mères porteuses qui exploitent des femmes à l'évidence. Et quant aux autres journées internationales, bien sûr, nous aurions dû regarder. Néanmoins, ce que nous avions à l'esprit, c'est le calendrier parlementaire.
Elle plaide donc non coupable et cherche à accentuer la pression sur les sénateurs qui mettront en place cet après-midi une commission spéciale bioéthique. Le Sénat va-t-il revenir sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules ? Non, ça n'en prend pas le chemin. En revanche, la droite sénatoriale compte annuler son remboursement par la Sécurité sociale et introduire dans ce texte l'interdiction formelle de la pratique des mères porteuses. Et en maintenant la pression, les opposants espèrent que l'Assemblée n'osera pas revenir dessus au printemps, quand le projet de loi reviendra au Palais Bourbon en deuxième lecture.
Il est 8h11 à Lyon, c'est bien Gérard Collomb qui portera les couleurs de la majorité au municipal.
Le premier macroniste de l'histoire de la Macronie, officiellement investi hier soir face à David Klimenfeld qui lui a succédé à la métropole. Et si c'était là qu'était la vraie bataille, Mathilde Imberti, autour de cette gigantesque collectivité de Lyon et de son agglomération.
Gérard Collomb a encore de l'ambition, non pas occuper le fauteuil de maire de Lyon qui est à lui depuis 2001, mais reprendre celui de président de la métropole qu'il a laissé à David Klimenfeld pour partir à Paris Place Beauvau. Une métropole qui compte aujourd'hui 59 communes, 1 300 000 habitants et un budget de 3 milliards d'euros. L'ancien ministre de l'Intérieur, 72 ans, armé de ses très solides réseaux, devra récupérer le terrain grappillé 2 années durant par David Klimenfeld, de 14 ans son cadet, plus jeune, plus écolo, davantage dans la concertation. Vante ses soutiens dans la métropole. La campagne s'annonce tonique et forcément polarisée autour des deux macronistes, alors que la droite ou les écologistes pourraient aussi profiter de la division. Europe Écologie, fort de ses 21% aux européennes, ambitionne de prendre Lyon et d'autres villes de la métropole. Un scénario à suspense jusqu'au bout, puisqu'il faudra attendre la désignation du président du Grand Lyon le jeudi suivant les élections municipales et métropolitaines pour comprendre si La République En Marche a vu juste. À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Deux prisonniers qui s'évadent lors d'un transfert, menottés l'un à l'autre, le scénario des spécialistes de Patrice Lecomte dans les années 80 avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot s'est déroulé pour de vrai hier soir à Marseille. Et ce ne sont pas deux prisonniers mais 4 qui ont pris la poudre d'escampette en pleine ville, menottés 2 par 2. Leurs gardiens s'en sont aperçus devant la prison des Baumettes. Écoutez le récit de Cathy Forzi du syndicat Force Ouvrière de la prison, jointe par Laurent Grollet.
C'est à l'arrivée donc du fourgon cellulaire qui rentrait du palais de justice sur les Baumettes que les collègues pénitentiaires se sont aperçus d'une différence de nombre avec ce qu'annonçait la police.
4 détenus donc qui n'étaient plus dans le fourgon,
moins, ouais.
Qui ont forcé la porte du fourgon.
Apparemment, oui, c'est ce que disent les autres détenus qui étaient dans le fourgon cellulaire. Ils ont sauté du camion, ils sont partis, alors sachant qu'ils sont menottés par 2. Ben, y en a un qui part, il y en a 2 et 2, ça fait 4. Quand ils veulent vraiment partir, ils y arrivent à faire ce qu'ils veulent. Et puis c'est dans la nuit, à savoir à quel endroit ça s'est passé, pas très loin des Baumettes, donc c'est des petites rues, c'est très facile de se cacher. Puis comme personne ne les a vus, donc ils ont eu le temps.
Voilà, les 4 détenus venaient d'être interrogés au tribunal pour des faits relevant de l'association de malfaiteurs, du proxénétisme ou de l'extorsion. Il fut un temps où l'UNICEF ne parlait que des enfants menacés par la famine. En 2010, ça n'est plus le seul danger à pointer, la preuve avec cette vaste étude publiée aujourd'hui et son constat, un enfant de moins de 5 ans sur 3 est dénutri ou en surpoids et l'obésité touche aussi les pays pauvres, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans.
8h14, qui aura droit à son départ ou à son arrivée sur le Tour de France l'été prochain?
C'est aujourd'hui qu'on connaîtra le tracé de la course dont on sait déjà qu'elle partira de Nice le 27 juin et qu'elle passera pour la première fois au-dessus de Méribel au col de la Lauze sur une route qui sert de piste de ski en hiver et qui n'existait même pas jusqu'à cette année. Fabrice Rigobert l'a emprunté pour France Inter, pas en vélo, il n'a pas encore les jambes.
Nous sommes avec Thierry Gouvenou, le directeur de la course sur le Tour. Nous venons de dépasser la station de Méribel après 14 km d'une montée régulière. On poursuit vers le sommet du col de la Loz sur un ancien chemin d'exploitation des remontées mécaniques long de 7 km.
On va prendre des pourcentages à 15-20%, là notamment ici dans ce virage serré. Et ben voilà, ben la voiture ne va pas partir. Je vais remettre en première et ça repart. Il y a moyen d'attaquer ou de mettre ses collègues dans le rouge. Hein.
C'est à pied que l'on poursuit le souffle court sur ces pentes sans végétation. Christian Prudhomme, le patron du Tour.
Un col comme ça, avec ces ruptures de pente là, aussi haut, c'est un tout pour devenir un grand rendez-vous du Tour des décennies à venir.
Une route jamais empruntée par la Grande Boucle, car goudronnée cette année seulement pour relier Méribel à Courchevel, inaugurée en juillet, testée par les coureurs du Tour de l'Avenir en août, et pas spécifiquement créée pour le Tour de France, appuie Thierry Monin, le maire des Alus, la commune de la station de Méribel.
On a créé cette voie verte, d'abord pour les cyclotouristes. On espère que, bien sûr, avec la dynamique du Tour de France, eh bien, ça va augmenter encore la fréquentation du secteur.
Et en haut, à 2304 mètres d'altitude, un panorama à 360 degrés sur tous les sommets de la Vanoise. Au loin, le Mont Blanc.
Un reportage signé Fabrice Rigobert et on espère qu'Eddy Merckx sera rétabli pour regarder ce 107e Tour de France. Le Belge mythique a été admis aux urgences dimanche après une chute à vélo en Belgique, sérieusement blessé à la tête selon la presse locale au cours d'une sortie entre amis. Merckx a 74 ans, il est sorti des soins intensifs selon l'hôpital.
Merci Florence Paracuelos.